du rétablissement de la censure au 24 juin 1827. Paris, ce 30 juin 1827. Mon pays n'aura rien à me reprocher. Resté le dernier sur la brèche, j'ai fait à la Chambre héréditaire le devoir d'un loyal pair de France. Je remplis maintenant celui d'un simple citoyen. Il m'en coûte. Déjà rentré dans mes paisibles travaux, je revoyais mes vieux manuscrits. Je voyageais en Amérique. Desertas quaerere terras. Rappelé subitement de la terre de liberté, je revins défendre cette liberté dans ma patrie. Comme jadis, j'accourus de cette même terre pour me ranger sous le drapeau blanc. En quittant la tribune de la Chambre des Pairs le 18 de ce mois, je prononçai ces mots. « Je vous dirai, messieurs, que ceux dont l'esprit d'imprudence inspira le projet de loi contre la liberté de la presse n'ont pas perdu courage. Repoussés sur un point, ils dirigent leur attaque sur un autre. Ils ne craignent pas de déclarer à qui veut les entendre que la censure sera établie après la clôture de la présente session. Mais, comme une censure qui cesserait de droit un mois après l'ouverture de la session de 1828 serait moins utile que funeste aux fauteurs du système, ils songeraient déjà aux moyens de parer à cet inconvénient. Ils s'occuperaient pour l'an prochain d'une loi qui prolongerait la censure ou d'une loi à peu près semblable à celle dont la couronne nous a délivrés. La difficulté, messieurs, serait de vous faire voter un travail de cette nature, si d'ailleurs il était possible de déterminer les ministres eux-mêmes à l'accepter. Vous n'avez pas de complaisance contre les libertés publiques. Quel moyen aurait-on alors de changer votre majorité ? Un bien simple, selon les hommes que je désigne, obtenir une nombreuse création de pairs. Avant de toucher ce point essentiel, jetons un regard sur la censure. Les auteurs des projets que j'examine en ont-ils bien calculé les résultats? Quand on établirait la censure entre les deux sessions, si cette censure, décriée par les ministres eux-mêmes, ne produisait rien de ce que l'on veut qu'elle produise, si elle n'avait fait que multiplier les brochures, si le ministère avait brisé le grand ressort du gouvernement représentatif sans avoir amélioré les finances, sans avoir calmé l'effervescence des esprits. Si au contraire, les haines, les divisions, les défiances s'étaient augmentées. Si le malaise était devenu plus général. Si l'on avait donné une force de plus à l'opposition, en lui fournissant l'occasion de revendiquer une liberté publique. Comment viendrait-on demander aux chambres la continuation de cette censure? On conçoit que, du sein de la liberté de la presse, on réclame la censure sous prétexte de mettre un frein à la licence. Mais on ne conçoit pas que, tout chargé des chaînes de la censure, on sollicite la censure. Lorsqu'on n'a plus à présenter pour argument que les flétrissures de cette oppression. L'abolition de la censure, le retrait de la loi contre la liberté de la presse sont des bienfaits de Charles X. Rien ne serait plus téméraire que d'effacer par une mesure contradictoire le souvenir si populaire de ces bienfaits. Et quelle pitié d'établir au profit de quelques intérêts particuliers une censure qu'on n'a pas cru devoir imposer pendant la guerre d'Espagne, lorsque le sort de la France dépendait peut-être d'une victoire. Nous nous sommes confiés à la gloire de Monseigneur le Dauphin. Il n'est pas aussi sûr, j'en conviens, de s'abandonner à toute autre gloire. Mais enfin, que messieurs les ministres aient foi en eux-mêmes. qu'il nous épargne la répétition des ignobles scènes dont nous avons trop souffert. Reverrons-nous ces censeurs, proscrivant jusqu'au nom de tel ou tel homme, rayant du même trait de plume et les éloges donnés aux vertus de l'héritier du trône et la critique adressée à l'agent du pouvoir. Après avoir été témoin des transports populaires du 17 avril, on ne peut plus nier l'amour de la France pour la liberté de la presse. Dans quel rang pourriez-vous donc trouver aujourd'hui des oppresseurs de la pensée? Parmi des fanatiques qui courraient à la honte comme aux martyrs, et parmi des hommes vils qui mettraient du zèle à gagner en conscience le mépris public. Me trompais-je dans les projets que j'annonçais? Mes frayeurs étaient-elles vaines? La haine ou la vérité dictait-elle mes paroles? Du moins, un avantage me reste sur mes adversaires. Point n'est renié mes opinions. Je suis ce que j'ai été. Je vais à la procession de la fête-Dieu avec le génie du christianisme et à la tribune avec la monarchie selon la charte. Comme père, j'ai prononcé plusieurs discours en défense de la liberté de la presse. J'ai écrit 100 fois pour cette liberté dans Le Conservateur et dans d'autres ouvrages. Pourquoi cette énumération? Pour me vanter? Pour me citer avec complaisance? Non, pour répondre à ces hommes qui, ayant trahi leurs premiers sentiments, veulent mettre leurs variations sur le compte des autres. À ces hommes qui s'écrient « Vous marchez » quand vous êtes immobile, ne s'apercevant pas que ce sont eux qui passent, et qui se figurent, en changeant de place, que l'objet offert à leur regard s'est déplacé. La liberté de la presse est devenue un des premiers intérêts de ma vie politique. J'en ai fait l'objet de mes travaux parlementaires. J'ose dire que ma position sociale, les opinions royalistes et religieuses que je professe, donnent à mes paroles quelque crédit lorsque je réclame cette liberté. On ne peut pas dire que je suis un révolutionnaire, un impie. On le dit, il est vrai, aujourd'hui. Mais ce qu'il y a de curieux, c'est que ces obligeants propos sont tenus par les jacobins à la solde de ce prétendu parti religieux et royaliste, lequel j'ai poussé au pouvoir en lui apprenant à bégayer, contre nature, la charte et la liberté. Il ne peut plus être question de poser les principes de la liberté de la presse. Leur substance se trouve dans les épigraphes que j'ai mises à la tête de cet écrit. La monarchie représentative sans la liberté de la presse est un corps privé de vie, une machine sans ressort. Au commencement de l'Empire, des pièces d'argent avaient d'un côté ces mots « Napoléon empereur » et de l'autre côté « République française ». Buonaparte frappait ses monnaies au coin de la gloire, et elles avaient cours. Sous un gouvernement constitutionnel, régi par la censure, on pourrait graver des médailles portant dans l'exergue « Liberté » et au revers « Police ». Qui voudrait prendre ce faux billon à l'effigie du ministère? Laissons donc des principes avoués même par ceux qui les violent, et examinons les ordonnances du 24 de ce mois. Elles sont sans préambule. L'ordonnance de la première censure était précédée d'un considérant accusateur des tribunaux. Les sycophantes du ministère firent entendre ensuite que cette insulte à la magistrature n'était que pour rire et que l'approche de la mort du vénérable auteur de la charte avait été la vraie cause de l'établissement de la censure. On plaça la perte de la première des libertés publiques entre une offense et une douleur. De quel considérant aurait-on pu accompagner les nouvelles ordonnances? Des illuminations avaient brillé dans toute la France pour le retrait du projet de loi sur la liberté de la presse. Aurait-on pu dire que cette circonstance grave obligeait de les éteindre avec la censure ? La garde nationale crie « Vive le roi !» Quelques voix isolées élèvent un cri inconvenant contre les agents du pouvoir. La garde nationale est licenciée. On reçoit à mots la monnaie de ce licenciement. Aurait-il été convenable de faire de ces faits la raison du rétablissement de la censure ? Un déficit se rencontrait dans les recettes des premiers mois de l'année. Était-ce là un bon prétexte pour suspendre la liberté de la presse ? Enfin, aurait-on pu déclarer qu'il fallait une ordonnance de censure parce que les ministres ne peuvent marcher avec la liberté de la presse ? Des ordonnances sans considérant étaient donc ce qu'il y avait de mieux. La première remet en vigueur des lois du 31 mars 1820 et du 26 juillet 1821. Le ministère est investi de ce droit par l'article 4 de la loi du 17 mars 1822 ainsi conçu. Si dans l'intervalle des sessions des chambres, des circonstances graves rendaient momentanément insuffisantes les mesures de garantie et de répression établies, les lois des 31 mars 1820 et 26 juillet 1821 pourront être remises immédiatement en vigueur, en vertu d'une ordonnance du roi délibérée en conseil et contresignée par 3 ministres. Cette disposition cessera de plein droit un mois après l'ouverture de la session des chambres, si pendant ce délai, elle n'a pas été convertie en loi. Elle cessera pareillement de plein droit le jour où serait publiée une ordonnance qui prononcerait la dissolution de la Chambre des députés. Ainsi, pour imposer la censure, il faut des circonstances graves qui rendent momentanément insuffisantes les mesures de garantie et de répression établies. Et où sont-elles, les circonstances graves ? Des troubles ont-ils éclaté ? L'impôt ne se perçoit-il plus ? Des provinces se sont-elles soulevées ? A-t-on découvert quelque conspiration contre le trône ? Sommes-nous menacés d'une guerre étrangère ? Bien qu'il soit prouvé que Monsieur le Dauphin n'a pas besoin de censure pour obtenir des triomphes. Si ces circonstances graves sont advenues, elles ne se sont pas déclarées tout à coup, le lendemain de la clôture de la session. Elles existaient sans doute lorsque les pairs et les députés étaient encore assemblés. Pourquoi n'en a-t-on pas parlé aux chambres ? Les ministres n'ont-ils pas été interpellés sur leurs projets ? Pourquoi n'ont-ils pas répondu ? Si leur dessein ne pouvait supporter l'épreuve d'une discussion parlementaire, les circonstances n'étaient donc pas assez graves pour justifier la censure. Nous parlera-t-on du trône, de la religion, des insultes personnelles ? Les tribunaux sont là. Le trône est trop élevé pour craindre les insultes. Il s'agit bien moins de le mettre à l'abri que de rendre la royauté aussi douce, aussi populaire qu'elle l'est en effet. Je ne connais rien qui s'entende mieux dans ce monde qu'un roi de France et son peuple, quand des ministres insensés ne viennent pas troubler cette union. Il ne s'agit pas d'empêcher qu'on parle légèrement du clergé. Il faut nourrir les prêtres, les secourir quand ils sont vieux et malades, les mettre à même de déployer leurs vertus, de faire aimer une religion de miséricorde et de charité. Il ne s'agit pas de prévenir les attaques personnelles. On ne diffame que ce qui peut être diffamé. Un honnête homme se défend par son propre nom et accepte la responsabilité de sa vie. Si le vice impudent émousse l'action de la presse, il serait étrange que la vertu patiente n'eût pas le même pouvoir. vous avez détruit la liberté de la presse. Multipliez les espions. La censure est aujourd'hui dans tous les sens, une véritable conspiration contre le trône. Pour quiconque a la moindre bonne foi, il est évident que la censure a été rétablie dans le seul intérêt d'une incapacité colérique. C'est pour une si noble nécessité que l'on attaque la charte dans ses fondements, que l'on retire à la France des droits déjà confirmés par une possession paisible. Il est dur d'en être là, après 13 années de restauration. Je n'insiste pas davantage. Il est trop aisé d'ergoter sur la gravité des circonstances. Chacun la voit dans la chose qui le touche. Un censeur soutient que les circonstances sont graves parce qu'il veut que l'on mette les libertés publiques en régie. L'espion trouve que les circonstances sont graves lorsque tout se dit publiquement et qu'il n'a plus rien à dénoncer. Les circonstances sont graves aux yeux du sot dont on rit, de l'hypocrite qu'on démasque, de l'homme déshonoré qui redoute la lumière. Faut-il, pour les assouvir, leur livrer l'indépendance nationale? De quoi vivent les nations? De liberté et d'honneur. Ne jetons pas aux chiens le pain des peuples et des rois. Disons pourtant que tout le monde est frappé d'une certaine crainte de l'avenir dans laquelle on pourrait voir une gravité des circonstances. Mais qui cause cette crainte? L'administration. L'inquiétude tient uniquement à ses actes. Toujours menaçant nos libertés, on se figure qu'elle les veut faire disparaître. On se demande ce que l'on deviendrait si nos institutions étaient renversées. On tremble également de l'idée des attaques et des résistances. Pour guérir un mal qui est en elle, que fait l'administration? Elle impose la censure. C'est diriger le vent sur un incendie. Passons à la seconde ordonnance. Je ne m'arrête pas aux deux noms propres placés dans une ordonnance réglementaire. Des erreurs de cette nature sont si fréquentes au ministère de l'Intérieur que cela ne vaut pas la peine d'en parler. La censure facultative est dans l'article 4 de la loi du 17 mars 1822. Le ministère a donc eu le droit, si les circonstances sont graves, de mettre la censure par la première ordonnance, et conséquemment de nommer des censeurs. Mais la seconde ordonnance rétablit le conseil de surveillance autorisé par une loi abolie. Cela se peut-il? Je ne le nie ni ne l'affirme. Il y a matière à contestation. Veut-on que ce conseil, né d'une ordonnance et non d'une loi, ne soit qu'une commission chargée de surveiller les censeurs eux-mêmes? Comment alors cette commission connaîtrait-elle avec autorité compétente de la suppression provisoire d'un journal? Voici quelque chose de plus étrange. L'article 9 de l'ordonnance dit « Quand il y aura lieu, en exécution de l'article 6 de la loi du 31 mars 1820, à la suppression provisoire d'un journal ou écrit périodique, elle sera prononcée par nous sur le rapport de notre garde des Sceaux. » Quoi ? C'est le roi qui ordonnera la suppression provisoire d'un journal ? C'est la royauté que l'on fera descendre à un pareil rôle. C'est la couronne qui s'abaissera à des fonctions de cette nature. C'est le pouvoir suprême qui luttera corps à corps avec la première de nos libertés. Ministre, y avez-vous bien pensé? Que dit l'article 6 de la loi du 31 mars 1820? Il dit « Lorsqu'un propriétaire ou éditeur responsable sera poursuivi, en vertu de l'article précédent, le gouvernement pourra prononcer la suspension du journal ou écrit périodique jusqu'au jugement. » Que faut-il entendre par ce mot « gouvernement » il faut entendre la couronne, les deux chambres, les juges inamovibles. Pourrait-on jamais soutenir que le gouvernement est la personne royale toute seule? En Turquie, peut-être. Cette personne sacrée est-elle un juge qui prononce dans des cas infimes en police correctionnelle? La couronne, exécutant les propositions de sentence élaborées dans un tripot de censeurs? La couronne, qui seule a le droit de faire grâce, ajoutant par la suspension d'un journal aux rigueurs d'une loi d'exception? Et si les tribunaux venaient ensuite à absoudre la feuille incriminée, le roi serait donc condamné? Ministre, encore une fois, y avez-vous bien pensé? On se sent comme oppressé par un mauvais songe. Une troisième ordonnance nomme les membres du conseil de surveillance. Ce n'est pas sans le plus profond étonnement et la plus profonde douleur qu'on y lit les noms de trois pairs et de trois députés. Je soutiens, sans hésiter, que des pairs et des députés ne peuvent pas être investis de pareilles fonctions, sans y être formellement contraints en vertu d'un acte législatif. Ceux qui discutent et votent les lois, ceux qui sont les défenseurs naturels des libertés publiques, les gardiens de la Constitution, ne sont pas aptes et idoines à composer une commission administrative de censure uniquement établie par ordonnance. En prêtant leur serment comme pairs et comme députés, ils ont juré de maintenir la charte. Il aurait donc moralement interdit de faire partie d'un conseil, créé pour la mise en vigueur d'une mesure qui suspend le plus sacré des droits accordés par cette charte. Les opinions particulières ne font rien à la question. Des pairs et des députés peuvent manifester à la tribune et dans leurs écrits ce qu'ils pensent contre la liberté de la presse. Mais prendre une part active contre cette liberté, voilà qui ne leur est pas permis. Ce serait bien pis dans le cas où leur fonction ne serait pas gratuite et où ils recevraient le prix d'une liberté. On assure que la France n'aura pas à rougir de ce dernier scandale. Si la presse pouvait être enchaînée en Angleterre, je ne doute point que des lords et des membres des communes, volontairement ravalés jusqu'à des fonctions de censeurs, ne fussent admonétés par leurs chambres respectives à l'ouverture de la session. Il y a des bienséances qui ont force de devoir. Dans la position des pairs et des députés membres du conseil de surveillance, tout est inconvénient et péril. Qu'un journal imprime, par exemple, les passages de discours servant d'épigraphe à cette brochure. Les censeurs subalternes, ne reconnaissant pas l'ouvrage de leur supérieur, croiraient ne pas avoir assez d'encre pour effacer ces effroyables lignes. Leur travail serait porté au conseil de surveillance. Que dirait le conseil ? Il y a toutefois des consolations à des choses affligeantes. Messieurs Keix et Rio ont donné leur démission. Le premier est un jeune professeur d'histoire de beaucoup de savoir, d'un esprit très distingué et qui a plus de mérite que de fortune. Il a joué sa place contre l'estime publique, s'est risqué peu pour gagner beaucoup. Le second est pareillement un jeune professeur plein de talent. Une illustration toute particulière le distingue. Pendant les 100 jours, dans la terre du royalisme, apparut tout à coup une armée d'enfants. Les vieux avaient 20 ans, les jeunes en avaient 15. Tout ce qui se trouvait entre ces deux âges, parmi les élèves du collège de Vannes, échangea ce qu'on peut posséder au collège de quelque valeur contre des armes et courut au combat. 15 ou 20 élèves furent tués. Les mères apprirent le danger en apprenant la mort et la gloire. Une ordonnance royale constate ces faits. Cette gloire de l'enfance est rappelée chaque année, selon le dispositif de cette ordonnance, dans une enceinte où l'on ne célèbre ordinairement que des triomphes paisibles. Ce n'est pas loin du monument de Quiberon. Les trois officiers de cette singulière armée ont reçu la croix de la Légion d'honneur. M. Riault est un de ces trois officiers. C'est à un pareil homme que le ministère a proposé la honte. Il l'a refusé. La conduite de ce jeune professeur est une preuve de plus qu'on peut être fidèle à son prince, royaliste jusqu'au plus grand dévouement, religieux jusqu'au martyre, sans cesser d'aimer les libertés publiques. On assure encore que M. Cuvier n'a pas accepté la place dans le conseil de surveillance. M. Cuvier a respecté sa renommée. Il a voulu la garder tout entière. Gloire aux lettres et aux sciences, qui n'ont point trahi leur propre cause, qui se sont sentis trop nobles pour porter la livrée d'un ministère, pour exécuter ses hautes œuvres. Note. J'apprends à l'instant, en corrigeant mes épreuves, que messieurs Fouquet et De Broé et monsieur le marquis d'Herbouville ont imité les nobles exemples qui leur avaient été donnés. L'esprit de la pairie et de la magistrature française devait se retrouver tout entier. Il n'y a donc plus que 3 censeurs et 7 membres du conseil de surveillance. Espérons dans la contagion du bien. Elle se propage facilement en France. Le précurseur, journal de Lyon, annonce qu'on avait pu trouver encore de citoyens réunissant les qualités nécessaires pour exercer les fonctions de censeur. À 3, les ordonnances du 24 juin étaient sans exécution le 27. Fin de la note. Je ne parle point des autres censeurs. Ils ne sont plus que 4. 4 opérateurs suffisent-ils pour expédier tant de patients? Il y aurait donc des garçons censeurs, des adjoints secrets, des amateurs de police dont la récompense est dans le secret promis à leur nom. Ce syndicat anonyme aurait bien de la peine à soutenir le crédit de la censure et à escompter le mépris public. Maintenant, examinons l'esprit et la marche de la nouvelle censure. Cette censure se montre sous un jour nouveau. Son caractère est doucereux, mielleux, patelin. Elle a l'air d'être la fille du bon monsieur Tartuffe. Guillemets. Eh, mon Dieu, vous direz tout ce que vous voudrez. On ne s'opposera qu'à ce qui pourrait blesser la religion, le trône et les mœurs. Nous aimons tant la religion et le trône que nous n'avons jamais trahi. Nos mœurs sont si pures. Faites de l'opposition tant qu'il vous plaira. Vous êtes entièrement libre sur la politique. Attaquez les ministres avec leur permission. Nous savons qu'il n'y a point de gouvernement représentatif sans la liberté de la presse, et c'est pourquoi nous établissons la censure. La censure est l'âge d'or de la liberté de la presse. Fin des guillemets. Tel est l'esprit de cette nouvelle censure. La naïve insolence de l'article du Moniteur du 26 juin prouve que nous restons même en deçà de la vérité. Je remarque d'abord une date singulière. Le manifeste ministériel, ou le vrai considérant des ordonnances du 24 juin de cette année, fait remonter ce qu'il appelle la licence de la presse au mois de juin 1824. Il revient plusieurs fois sur cette date. Il parle de la presse opposante depuis 1824. Il dit que depuis 3 ans, la presse a jeté des nuages fantasmagoriques. Il redit en finissant le mal causé depuis 3 ans par la licence de la presse. Frappé de cette date précise, de cette extrême insistance, je me suis demandé ce qui était arrivé de si extraordinaire au mois de juin 1824. ce qui pouvait causer la préoccupation évidente de l'interprète des ministres. En me creusant la tête, et ne trouvant rien du tout dans ce mois de juin 1824, j'ai été obligé de me souvenir d'un événement fort ordinaire, fort peu digne d'occuper le public. Ma sortie du ministère. Si par hasard, le jour de la Pentecôte, 6 juin 1824, avait obsédé la mémoire de l'écrivain semi-officiel, c'est donc moi qui, depuis 3 ans, serait la cause de la licence de la presse. En rassemblant mes idées, je me souviens en effet qu'au moment de l'imposition de la censure, en 1824, on déclara qu'on ne pouvait aller ni avec moi, ni sans moi. Que faudrait-il conclure de ces dires ? Que je faisais la paix de la presse quand j'étais auprès du gouvernement ? Que je ralliais à la couronne les diverses opinions, par mon côté religieux et royaliste, et par mon côté constitutionnel ? Or, du conseil du roi, j'aurais donc été suivi par tout ce qui s'attache aux doctrines de légitimité, de religion et de liberté, que je professe invariablement. J'aurais donc tout brouillé, tout détaché de l'autorité. J'aurais donc excité les tempêtes, et ne pouvant m'arracher l'opinion que je soulève, force est de la bâillonner encore une fois. Si tout cela était véritable, on eût été bien mal avisé de méconnaître et de reconnaître à la fois mon pouvoir. Ou on aurait commis une grande faute en me précipitant du ministère aussi grossièrement qu'on eût chassé le dernier des humains. Telles sont les conséquences que mon amour-propre pourrait tirer des aveux de mes adversaires. Grâce à Dieu, je ne suis pas assez fat pour me supposer une telle puissance. Si j'ai quelque force, je ne la tire que de la fixité de mes opinions, et surtout des fautes de ces hommes qui compromettent tous les jours le trône, l'autel et la patrie. Après avoir fixé la date de la licence, le moniteur déclare que les écrivains de l'opposition prévoyaient depuis un mois la censure, parce que le mot de censure était écrit dans leur conscience. Tout le monde, non pas depuis un mois, mais depuis plus de 2 années, annonçait la perte de la plus vitale de nos libertés, parce qu'on n'ignorait pas que M. le Président du Conseil avait écrit un ouvrage en faveur du rétablissement de l'Ancien Régime. Parce que l'on savait que le ministère était trop faible pour marcher avec les libertés publiques, et parce qu'en multipliant les fautes et les projets, il avait besoin de silence et de voile. Le moniteur nous dit que, pendant 5 années de liberté de presse, l'autorité s'est refusée constamment à désespérer du bon sens national. Et c'est parce que le bon sens national a approuvé pendant 5 années la liberté de la presse que l'autorité a désespéré de ce bon sens et qu'elle a fini par mettre ce fou dans la chemise de force de la censure. Et c'est bien ainsi que le bon sens des ministres traite le bon sens national. C'est la misère même en délire. Buonaparte, dans toute sa puissance, n'aurait pas osé insulter ainsi la nation. Pendant 5 années, des travaux ont été laborieusement suivis à travers les difficultés que la licence des écrits suscitait sans cesse autour des projets les plus éclairés. Entre parenthèses, moniteur. Les projets les plus éclairés. Quels projets ? Le 3%, le syndicat, la cession de Saint-Domingue par ordonnance et sans garantie de paiement, les avortons de loi. Mais ce ne sont pas les journaux qui ont rejeté ou refait les projets de loi. Ce sont les chambres à qui le moniteur donne des éloges, offrant en exemple l'ordre admirable qui règne dans les discussions parlementaires. Les gazettes prétendraient-elles au privilège d'être moins constitutionnelles, moins légales que les chambres ? Entre parenthèses, moniteur. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans les principes de la matière entre les gazettes et les chambres ? Rien, si ce n'est la liberté de parole, garantie à tous par la charte. Or, mettons la censure sur la parole des orateurs. Il me semble cependant qu'on a dit aux ministres, dans les chambres, tout aussi énergiquement que dans les journaux, qu'ils perdaient la France, qu'ils méritaient d'être mis en accusation. Les feuilles périodiques ont-elles témoigné plus de mépris aux agents du pouvoir que n'en a répandu sur eux cette phrase d'un éloquent député ? Guillemets. Conseillers de la couronne, auteurs de la loi, connus ou inconnus, qu'il nous soit permis de vous le demander. Qu'avez-vous fait jusqu'ici qui vous élève à ce point au-dessus de vos concitoyens, que vous soyez en état de leur imposer la tyrannie ? Dites-nous quel jour vous êtes entrés en possession de la gloire. Quelles sont vos batailles gagnées ? Quels sont les immortels services que vous avez rendus au roi et à la patrie ? Obscurs et médiocres comme nous, il nous semble que vous ne nous surpassez qu'en témérité. La tyrannie ne saurait résider dans vos faibles mains. Votre conscience vous le dit encore plus haut que nous. En note, discours de M. Royer-Collard sur le projet de loi de la presse, 14 février 1827. Un peu plus loin, le moniteur appelle l'administration un pouvoir constitutionnel. Le mot est curieux. Il prouve comment les publicistes du ministère entendent la charte. Les résultats de la censure tels que la voilà paraissent si peu incertains aux vrais amis de la liberté de la presse que pour eux, le triomphe de celle-ci ne date que de ce jour. La censure ne laissera subsister que les réalités. Moniteur. Ainsi, c'est la censure qui est la liberté de la presse, à merveille, n'est-ce pas là le pieux guet-apens de Pascal ? La censure ne laissera subsister que les réalités, ajoutez ministériel, et le sens de la phrase sera complet. Le moniteur porte ensuite un défi à l'opposition. Il l'appelle en champ clos, bien entendu qu'il combattra cuirassé de la censure, et que l'opposition toute nue sera menacée des ciseaux des censeurs. Les ministres, par l'organe de leur champion, qui se promènent bravement dans la solitude du moniteur en attendant les passants, s'étendent sur la garantie qu'offre la composition du conseil de surveillance. Tout en respectant le caractère des hommes, en rendant hommage à leurs vertus privées. Ce ne sont pas des partisans avoués du pouvoir absolu qui pensent rassurer les citoyens sur les libertés publiques. Si le conseil de surveillance n'est pas rempli des créatures des ministres, il l'est et le doit être de leurs amis. Il est naturel que l'autorité choisisse des hommes dans ses opinions. En dernier résultat, le ministère est tout dans cette affaire, puisqu'il peut nommer et changer à son gré les membres d'un conseil dont les places ne sont pas inamovibles. N'est-ce pas un ministre ? N'est-ce pas monsieur le garde des Sceaux qui instrumente dans les cas graves, après avoir pris seulement l'avis du conseil de surveillance ? Ce conseil n'est au fond qu'une imitation de la Commission de la liberté de la presse, placée par Buonaparte auprès du Sénat. Il produira le même bien. On écrira tout aussi librement que dans le bon temps de M. Fouché. Le Montesquieu du Moniteur termine son apologie par cette phrase digne du reste. Guillemets. Les amis véritables de la liberté de la presse se croient affranchis par les ordonnances du 24 juin, d'une insupportable tyrannie qui pesait sur le pays. Il ne voit que l'émancipation de la liberté dans la censure de la licence. Fin des guillemets. Rien de si commun dans l'histoire de la politique que les consolations dérisoires offertes à la victime. C'est toujours pour leur plus grand bien que l'on a opprimé les hommes. Un député ministériel, argumentant contre une proposition faite par un membre de l'opposition, disait que cette proposition était renouvelée de Robespierre. Puisque les hommes qui nous combattent se permettent ces comparaisons odieuses, qu'il soit permis de dire, avec plus de justesse, que l'article du Moniteur ressemble à ces fameux écrits d'un rhétoricien tout aimable, tout sensible, tout doux, qui prenait les malheurs du beau côté. Récit que ses contemporains appelaient, à ce que je crois, d'un nom propre assez ridicule. Il fallait répondre au manifeste du ministère. À présent, je conseille à chacun de laisser en paix le Moniteur. Le citer, c'est le tirer de son obscurité. Le chevalier de la censure serait charmé qu'on voulût jouter avec lui. Ne nous chargeons pas de mettre au jour les pauvretés officielles. Au surplus, à travers le langage de l'écrivain confit en politique, le but où il veut aller est visible. Un citoyen du Mans, chapon de son métier, était sommé de comparaître, par devant les lares du maître, au pied d'un tribunal que nous nommons foyer. Tous les gens lui criaient, pour déguiser la chose, « Petit, petit, petit !» Mais avant de montrer comment, si l'on donne dans le piège, la censure passagère et incommodante du Tartuffe pourrait engendrer la censure perpétuelle et fanatique de la faction, il est bon de s'arrêter un moment. Apprenons d'abord au public ce qu'il doit croire de la bénigne censure. Je suis fâché de descendre à des détails peu dignes. Mais qui les racontera si je ne les révèle? Ce n'est pas sans doute les journaux. Au moment où les institutions de la Charte sont en péril, il ne s'agit ni de moi ni de personne. Il s'agit de la France. Il faut qu'elle sache ce que c'est que cette honorable censure, cette impartiale inquisition, établie pour la plus grande gloire de la liberté. Premièrement, il est convenu, autant que possible, entre les recors de la pensée, que les blancs n'auront pas lieu. En effet, les blancs, qui annoncent les suppressions, mettent le lecteur sur ses gardes. C'est comme s'il lisait le nom de la censure écrit au haut du journal. On craint l'effet de ce nom honteux. Esclaves, soyez mutilés, mais cachez la marque du fer. Subissez la torture, mais donnez-vous garde de paraître disloqués. Portez des chaînes avec l'air de la liberté. Dans ces injonctions machiavéliques, la censure a au moins la conscience de son ignominie. C'est quelque chose. Comment peut-on forcer les feuilles périodiques à remplir les blancs que laissent les retranchements de nos seigneurs? Elles ne peuvent y être contraintes au nom de la loi. D'accord, mais voici ce qui arrive. On dit à un journal, « Si vous laissez des blancs, on vous mettra des entraves qui rendront impossible la publication du journal pour le lendemain. » On dit à un second journal, « Si vous laissez des blancs, nous accorderons à une autre feuille la permission de donner une nouvelle que nous retrancherons dans la vôtre. » On dit à un troisième journal, « Si vous laissez des blancs, nous exercerons sur vous la censure dans toute sa vigueur. Nous ne vous passerons pas un mot, nous vous réduirons au néant. » Les journaux menacés couvrent leurs plaies. Au débat, à la quotidienne, des passages ont été supprimés. Comme ils les ont immédiatement remplacés, le public ne s'est aperçu de rien. La France chrétienne, la Pandore et quelques autres feuilles ont paru avec la robe d'innocence de la censure. En note, la petite pièce vient après le drame. On a rayé sur le Figaro la vignette représentant Figaro et Basile. Un petit journal avait annoncé le mélodrame des Natchez, tiré, disait-il, d'un admirable poème. On a rayé le mot « admirable » et on a bien fait. Le censeur a eu raison comme critique, mais tort comme censeur, etc. On a rayé dans le journal des débats un article de la Gazette d'Augsbourg qu'on a laissé dans le Constitutionnel. Demain, ce sera le tour de celui-ci. On lui défendra ce qu'on aura permis au débat, si les débats sont dociles. Dans un article du journal des débats, où l'on proposait M. Delalot comme candidat aux électeurs d'Angoulême, la censure a barré ces lignes. Guillemets. Si la carrière législative de M. Delalot fut courte, on n'a point oublié ce qu'il fallut de manœuvre pour l'abréger. Nous espérons sincèrement revoir bientôt à la tribune M. Delalot voué à la défense du trône et des libertés publiques, tout ce qu'elles ont droit d'attendre de son éloquence et de son inébranlable fermeté. Son nom est l'effroi des ministres ennemis de la charte et qui trahissent les doctrines qui les portèrent au pouvoir. Fin des guillemets. On a rayé l'annonce de la démission de messieurs Keix et Rio. On se venge du courage de ces hommes d'honneur en les laissant sous la flétrissure de la faveur ministérielle. En note, à mesure que j'écris, les renseignements m'arrivent de toutes parts. Le rédacteur en chef du journal du commerce me donne connaissance de ces colonnes condamnées. J'y vois des suppressions étranges et un manque complet de bonne foi, puisqu'on a retranché jusqu'à des réponses faites à des assertions qui se trouvaient dans des journaux ministériels. Remarquez qu'au terme de la loi, on aurait le droit de forcer les feuilles attaquantes à imprimer la réponse. Ce cas peut souvent se présenter. Les censeurs auraient-ils le droit d'effacer ce que la loi ordonne positivement ? Fin de la note. Enfin, il s'agissait d'annoncer la présente brochure de cette manière modeste. On assure que M. de Chateaubriand va faire paraître un écrit sur le rétablissement de la censure. Je savais que l'avertissement serait refusé. Il l'a été. Ainsi, des professeurs honorables ne sont pas libres de faire connaître qu'ils n'acceptent pas une place. Un pair de France ne peut pas faire dire qu'il va publier quelques pensées sur une question qui touche aux lois politiques, à l'existence même de la charte. Voilà l'impartiale censure. Pourra-t-on croire que c'est sous un conseil de surveillance composé de pairs, de députés et de magistrats que les droits les plus légitimes sont ainsi méconnus ? Monsieur le vicomte de Bonald, que j'appelais encore il y a quelques jours à la tribune mon illustre ami, peut-il consentir à couvrir de son noble nom de pareilles lâchetés, de telles turpitudes, lui dont les ouvrages ont aussi été proscrits et qui a subi comme moi les outrages de la censure? Nous verrons s'il en sera de ma brochure nouvelle comme de la monarchie selon la charte, si défense sera faite aux journaux d'en parler, si la poste refusera de la porter, si les commis qui la liront seront destitués, si les préfets la poursuivront dans les provinces et menaceront les libraires qui s'aviseraient de la vendre, si enfin monsieur le président du conseil, qui a tant à se louer de la monarchie selon la charte et qui m'en a fait des remerciements si obligeants, agira aujourd'hui comme le ministre dont il était alors le violent adversaire. Ces précautions ministérielles devraient me donner beaucoup d'orgueil, n'eussé-je à déplorer tant de misère. La religion est bien malade, si elle peut craindre l'auteur du génie du christianisme. La légitimité est en péril, si elle redoute l'homme qui a donné la brochure de Buonaparte et des Bourbons. Rédiger le rapport fait au roi dans son conseil à Gand, et publier le petit écrit « Le roi est mort, vive le roi ». Mais ce que je viens de dire, par rapport à mon nouvel opuscule, n'est déjà plus d'une vérité rigoureuse. Le sol est mouvant sous nos pas. ce que l'on a refusé au journal des débats, à la quotidienne, au courrier, on l'a permis encore au constitutionnel. On lit ces deux lignes dans sa feuille du 28. On annonce l'apparition prochaine d'un nouvel écrit de M. de Chateaubriand. Quel écrit ! La censure n'aura pas sans doute laissé ajouter « sur la censure ». Libre au lecteur de penser qu'il s'agit d'une nouvelle livraison de mes œuvres complètes. Le lendemain 29, il a été loisible à la quotidienne et au courrier de répéter la petite escarbarderie. Encore quelques jours, et vous serez témoin de ce qui adviendra. On ne commande point aux passions. Ceux qui jouissent du pouvoir absolu ont beau se promettre de s'en servir avec sobriété. Le despotisme les emporte. Ils s'irritent des résistances. Bientôt, ils trouvent que c'est une duperie d'avoir en main l'arbitraire et de ne pas en user largement. D'un autre côté, le parti qui domine le ministère prétend dire ce qui lui plaira. Si la censure veut l'enchaîner, il menacera. Il faudra lui obéir, et l'extrême licence des feuilles périodiques se placera auprès de l'extrême esclavage. Voulez-vous juger jusqu'à quel point la presse est libre sous la censure ? Que la quotidienne essaie de rappeler la violence exercée sur M. Hyde de Neuville, qu'elle parle des services méconnus, de l'ingratitude dont on use envers les royalistes, qu'elle déclare qu'on n'aurait jamais dû reconnaître une république de nègres révoltés, qu'elle demande si Boyer paiera ce qu'il doit, qu'elle invite les électeurs à ne nommer que des royalistes opposés aux volontés du ministère. Et vous verrez si la gracieuse censure laissera passer deux mots de tout cela. Que les débats, le constitutionnel, le courrier, la France chrétienne, le journal du commerce, fassent à leur tour, chacun dans la nuance de son opinion, des articles comme ils en faisaient il y a seulement 4 ou 5 jours, qu'ils passent en revue les fautes du ministère, qu'ils signalent ses erreurs, qu'ils rappellent et le 3%, et le syndicat, et le droit d'aînesse, et la loi sur la presse, et les funérailles du duc de Liancourt, et le licenciement de la garde nationale. Qu'ils répètent ce qu'ils ont dit 1000 fois, sur l'incapacité du ministère, sur le mal qu'il fait à la France. Enfin que, réclamant toutes nos libertés, ils s'élèvent avec chaleur contre la censure. Et vous verrez si la censure leur laissera cette indépendance. La prétendue douceur de la censure est donc pure jonglerie. Il ne s'agit d'ailleurs ni de douceur, ni de rigueur. La liberté de la presse est un principe, principe vivant du gouvernement représentatif. Ce gouvernement ne peut exister avec la censure, modérément ou violemment exercée. La liberté de la presse n'est point la propriété d'un ministère. Il ne doit point en user à son gré et selon son tempérament. Aujourd'hui, le ministère sera bénévole. Demain, il aura de l'humeur, et la liberté de la presse suivra l'inconstance de ses caprices. Un ministère peut changer. Un autre ministère peut survenir, avec un système tout contraire aux intérêts que l'on prétend protéger aujourd'hui. Et il emploiera la censure à ses fins. Que chacun fasse ce raisonnement dans son opinion particulière, et l'on demeurera convaincu que la censure blesse les intérêts divers, pour n'en favoriser qu'un, variable selon la variation du pouvoir. Si la censure facultative est momentanée, et déjà une si grande peste, quel fléau ne deviendrait-elle pas changée en censure perpétuelle ou centenaire ? Tous les ménagements disparaîtraient. On se moquerait des dupes et du cri des opprimés lorsqu'on aurait rivé leurs chaînes. Dans le silence de l'opinion, la faction essaierait de renverser l'ouvrage de Louis XVIII, d'annuler le contrat entre la vieille et la nouvelle génération. de déchirer le traité réconciliateur du passé et de l'avenir. C'est ici qu'il faut montrer le but caché de ceux qui ont si imprudemment poussé les ministres à rétablir la censure. Mon opinion, puis-je me tromper, est que cette censure provisoire pourrait devenir le type d'un projet de loi que l'on espérerait obtenir pour la session prochaine. On se flatterait que de nouveaux pairs, introduits dans la chambre héréditaire, aplaniraient les difficultés. Tout changerait alors si l'on obtenait la victoire. La pensée serait enchaînée jusqu'au jour des révolutions. Le silence ne sauve point les empires. Buonaparte, avec la censure, a péri au milieu de ses armées. J'ai la conviction qu'on échappera au malheur que je redoute en évitant ce qui peut nous perdre, si les feuilles périodiques acceptaient la liberté dérisoire qu'on leur offre, si, sous la verge des commandeurs, elles consentaient à faire une demi-opposition, elles s'exposeraient au plus grand péril. On viendrait à la session prochaine entonner dans les chambres les louanges d'une censure destructive de la licence et conservatrice de la liberté. On apporterait en preuve les articles mêmes des journaux. On lirait d'une voix retentissante ce qu'on leur aurait laissé dire dans le sens de leurs opinions diverses. Si par malheur on avait réellement présenté une loi de censure, l'argument tiré de la liberté censurée des journaux paraîtrait irrésistible. Avec des larmes d'attendrissement et d'admiration pour de si magnanimes ministres, serait-ce trop que de leur faire, à eux et à leurs successeurs, présents à toujours, de la liberté de la presse. Des entraves méritées enchaîneraient des mains trop obéissantes. En note, une gazette ministérielle a avancé qu'excepté le Courrier français, les journaux de l'opposition se sont prononcés pour la censure. Cette feuille ment, mais on voit sa pensée. Fin de la note. Quant à moi, je ne consentirai jamais à faire de la liberté avec licence des supérieurs. On n'entre au bagne à aucune condition. Rompre des lances pour les libertés publiques, sous les yeux des héros de la censure. Danser la pyrrhique en présence des gardes chiourmes, qui applaudissent à la dextérité des coups, à la grâce des acteurs, serait imiter ces esclaves qui faisaient des tours d'escrime et des sauts périlleux pour le divertissement de leurs maîtres. Passaient-ils la borne prescrite, le fouet les avertissait, qu'ils n'étaient que des baladins ou des gladiateurs. Les principes les plus utiles perdent leur efficacité quand ils sont timbrés du bureau d'un inspecteur aux pensées. On ne croit point à un journal censuré. Le bon sens enseigne que si l'on permet à tel journal de dire telle chose, c'est que le ministère y a un intérêt secret. La vérité devient mensonge en passant par la censure. Les mêmes hommes que l'on traitait si rudement il y a quelques jours, sont-ils devenus des saints parce qu'ils ont mis la censure? Ont-ils une vertu de plus parce qu'ils ont fait un mal de plus? Leurs fautes sont-elles effacées parce qu'ils ont ordonné le silence? Si hier ils perdaient la France, la sauvent-ils aujourd'hui? On leur faisait de grands reproches. Où ils ne méritaient plus ces reproches s'ils consentaient à se les laisser adresser? Où ils mépriseraient assez leurs adversaires pour leur permettre des arguments de Rodomont visés à la police? Où l'on aurait l'air de remplir un rôle de compère avec eux. Ce qu'ils veulent surtout, les ministres, c'est produire une illusion de gouvernement représentatif. Marionnettes dont les fils seraient tirés par la censure, nous ferions une mascarade d'opposition. La France deviendrait une espèce de polichinelle de liberté, parlant fièrement d'indépendance. Et puis, quand la farce serait jouée, un espion de police laisserait retomber le sale rideau. Lâcherons-nous la réalité pour l'ombre, Sommes-nous des vieillards tombés en enfance, qu'on amuse avec des hochets politiques ? Et pour peu qu'appuyer sur notre béquille, nous donnions l'essor à nos vaines paroles. Aurons-nous de la charte tout ce que nous en désirons ? Une nation qui, renonçant à la seule surveillance digne d'elle, la surveillance des lois, contreferait une nation libre sous la tutelle d'un gardien payé, serait-elle assez dégradée ? Je n'ai point la prétention de tracer une marche aux amis des libertés publiques, et l'on me contesterait à bon droit mon autorité. Je pense que si l'opposition suit diverses routes, elle a comme moi l'horreur de la censure, qu'elle cherche comme moi le moyen le plus sûr de briser cet infâme joug. J'expose seulement mes idées, mes craintes. On peut voir mieux que moi, mais je dois compte aux gens de bien de ma manière de comprendre la question du moment. Si le conservateur existait encore, si je dirigeais encore cette feuille avec messieurs de Villèle, Frénilly, de Bonald, d'Herbouville et mes autres nobles et honorables amis, voici ce que je leur proposerais. Continuez d'écrire comme si la censure n'existait pas. On supprimerait les articles, nous laisserions des blancs pour protester contre la violence. Le journal serait exposé à toutes sortes de vexations. Il ne paraîtrait pas à jour fixe. Il serait retardé de 24 heures. Tant mieux, ces persécutions rendraient la censure plus odieuse. Une page blanche est un article que les abonnés lisent à merveille et dont ils sentent tout le prix. On nous ferait peut-être des procès pour crimes de blanc, comme on condamnait jadis les aristocrates taciturnes. Tant mieux. Nous ferions des procès à notre tour. Nous appellerions le conseil de surveillance et les censeurs devant les tribunaux. Il faudrait plaider. Nous traînerions au grand jour les ennemis ténébreux de nos libertés et nous ne vendrions pas nos procès aux marchands de conscience. Enfin, nous réimprimerions à part tous les 8 jours, en forme de brochure, les articles supprimés. Car, chose remarquable et qui explique toute la censure, les articles incriminés par elle seraient innocents devant les tribunaux. Le censeur condamne ce que le magistrat acquitterait. Enfin, jamais nous n'engagerions le combat avec les écrivains ministériels dans la lice de la censure. Et quand nous ne pourrions pas parler de politique en pleine et entière liberté, nous parlerions littérature. En note, la littérature n'est pas plus épargnée que la politique. Le journal des débats paraît aujourd'hui avec 2 colonnes blanches, au risque de redoubler l'humeur censoriale. C'est un article littéraire qui a été supprimé. Fin de la note. En ma qualité de pair de France, je ne puis me défendre d'une réflexion pénible. Une censure facultative, accordée pour le besoin de la couronne dans des circonstances graves, n'a paru au législateur qu'une prévoyance utile. Eh bien, que résulte-t-il aujourd'hui de cette malheureuse facilité à livrer au pouvoir les libertés publiques ? Avec quelle circonspection, avec quelle prudence, ne faut-il donc pas discuter et voter des lois. Il n'est plus temps de se le dissimuler. La marche que suit le ministère peut conduire à une catastrophe. Se suspendre un moment aux parois des abîmes est chose possible, mais il faut finir par y tomber. On sent que l'embarras est grand pour des hommes qui se préfèrent à leur patrie. Hors du pouvoir, que serait-il ? Écrasé du fardeau des responsabilités qui pèsent sur sa tête. Tantôt en voulant corrompre les journaux, tantôt en essayant de faire passer un projet de loi détestable, tantôt en recourant à la censure, tantôt en menaçant les rentiers d'une conversion, tantôt en licenciant la garde nationale de Paris. Le ministère a créé une immense impopularité. Il a mis de toutes parts des haines en réserve. Il a cherché la force dans la police et dans les médiocrités. autant demander la vie au néant. Les choses humaines ne sont pas stationnaires. Les années, les jours, les heures amènent les événements. Le temps moissonne plus d'hommes dans une minute que le faucheur n'abat d'herbe dans la même minute. Le terme de la septennalité approche. Que fera-t-on ? Des élections ? Qui sera élu ? Les royalistes, dispersés, persécutés, reniés, ne sont plus réunis comme au temps du conservateur. Ceux d'entre eux qui ont porté le poids des ruines de l'ancienne monarchie sont au bord de leur tombe. Ils feraient bien un effort pour aller mourir aux pieds du roi, mais c'est tout ce qu'ils pourraient faire. Les partisans de l'usurpation ou de la République, s'il en est encore, se réjouissent de ce qu'ils voient. La France nouvelle, la France constitutionnelle et monarchique est blessée. Elle croit que le ministère veut lui ôter ce que le roi lui a donné. Au moment où l'on a parlé de tant de projets funestes, la censure lui semble être le moyen que la coterie s'est réservé pour les accomplir. La France raisonnable et éclairée ne peut concevoir une administration qui choque tous les intérêts, qui traite les amis de la royauté comme les ennemis de la couronne. Une administration qui, dans l'espace de 3 années, met, ôte et remet la censure, qui fait des lois et les retire, qui s'en prend aux tribunaux, qui ne daigne pas même répondre lorsqu'on lui dit qu'elle sera entraînée à violer le principe de la pairie. Une administration qui traite une capitale de 700 000 habitants, où le roi réside, comme elle traiterait un village de l'Auvergne et du Berry. Une administration qui frappe brutalement avec un bras débile et qui, n'étant capable de rien, se laisse soupçonner de tout. Dans ce siècle, on ne tient point devant l'opinion. Les idées sont aujourd'hui des intérêts, des puissances. Mettez-les de votre côté. Prenez-y garde. Si les journaux ont fait tout le mal, il faut maintenant que tout aille bien sous la censure. Si le mal continue, il est de vous. On se demande en vain ce que feront les ministres. Essaieront-ils de changer la loi des élections avant une époque fatale ? Il n'y a point de loi d'élection, à moins qu'elle ne nomme des députés d'office qui donnent aux ministres une majorité. Loin de calmer l'opinion, le silence imposé par la censure ne fera que l'irriter. Se porterait-on à des mesures sortant des limites de la charte ? L'impôt ne rentrerait plus. L'affectation que les parasites du pouvoir mettent à parler de soldats et d'armées fait sourire un peuple militaire qui a vu la garde impériale au retour d'Austerlitz et de Marengo, qui a vu les rois de l'Europe expiés à la porte des Tuileries, l'inhospitalité dont ils s'étaient rendus coupables envers le véritable maître de ce palais. C'est avec les arts et les libertés constitutionnelles qu'on pouvait faire oublier la gloire. Que nous donnent les anti-chartistes en place de celle-ci ? La censure et le ministère. C'est bien peu. Et quoi ? Le plus pur sang de la France aurait coulé pendant 30 années. Le trône aurait été brisé. Nous aurions vu nos biens, nos amis, nos parents et jusqu'au tombeau de nos familles s'abîmer dans le gouffre révolutionnaire. Nous aurions combattu l'Europe conjurée. Et tout cela pour conquérir la censure que nous avions en 1789. À force de malheurs et de victoires, quand sur la poussière des générations immolées, nous sommes parvenus à relever le trône légitime, le résultat de tant d'efforts serait de confier à des êtres obscurs, dont le nom n'a pas dépassé le seuil de leur porte, la dictature de l'intelligence humaine. Non, il y a des choses impossibles. Vous établissez, dites-vous, la censure au terme de la loi pour des circonstances graves. C'est la censure qui fera naître ces circonstances. Elles renverseront le pouvoir ministériel. Puissent-elles n'ébranler que lui ? Je réclame la liberté de la presse avec la conscience d'un sujet fidèle, fermement convaincu qu'il combat pour la sûreté du trône. Ne nous y trompons pas. La liberté de la presse est aujourd'hui toute la Constitution. Nous ne sommes pas assez nourris au gouvernement représentatif. Ce gouvernement n'a pas encore jeté parmi nous des racines assez profondes pour qu'il existe de lui-même. C'est la liberté de la presse qui le fait. Ce n'est pas la charte qui nous donne cette liberté. C'est cette liberté qui nous donne la charte. Elle seule, cette liberté, est le contrepoids d'un impôt énorme, d'un recrutement que l'on peut accroître à volonté, d'une administration despotique laissée par la puissance impériale. Elle seule fait prendre patience contre des abus de l'ancien régime qui renaissent avec les hommes d'autrefois. Elle seule fait oublier les scandaleuses fortunes gagnées dans la domesticité et qui surpassent celles trouvées par les maréchaux sur les champs de bataille. Elle console des disgrâces. Elle retient par la crainte les oppresseurs. Elle est le contrôle des mœurs, la surveillante des injustices. Rien n'est perdu tant qu'elle existe. Elle conserve tout pour l'avenir. Elle est le grand, l'inestimable bienfait de la Restauration. Qu'avaient nos rois à nous offrir en arrivant de l'exil ? Leurs droits, les souvenirs de l'histoire, l'adversité et la vertu. Ils y ont ajouté la liberté de la pensée. Et cette France pleine de génie est tombée à leurs pieds. La patrie invoque aujourd'hui la déclaration de Saint-Ouen, la charte, les serments de Reims. Charles X n'a pas juré en vain sur le sceptre de Saint-Louis. La liberté sera plus belle quand elle nous sera rendue par la religion et l'honneur. Chateaubriand. Post-scriptum. Dimanche 1er juillet 1827. J'écrirai aussi longtemps que durera la censure, que je ne pourrai suffire à noter toutes ces persécutions. Voici quelques nouveaux faits que j'ai encore le temps de rapporter. Le journal des débats donne le 29 juin un article littéraire. La censure y trouve quelques mots, quelques phrases à reprendre. Elle barre l'article entier et rend le reste approuvé du journal à 11 heures du soir. Le lendemain 30 juin, qu'arrive-t-il ? On envoie comme de coutume la double épreuve exigée à la censure. Le porteur de l'épreuve attend jusqu'à 10 heures du soir et demande l'épreuve qui doit être rendue avec le visa de la censure. On lui remet une des deux épreuves non visées, en lui disant que les censeurs se sont retirés. Le journal des débats avait par hasard le reste d'une ancienne épreuve approuvée. Il s'en sert pour que ses feuilles ne soient pas entièrement blanches, et le journal paraît dans l'état où toute la France a pu le voir. N'est-il pas évident qu'en adoptant ce système de non-censure, on peut, par le fait, supprimer un journal ? Car si toutes les colonnes du journal sont non-censurées, ou le journal paraîtra tout en blanc, où il ne paraîtra pas du tout. Et s'il paraît avec des articles non censurés, au terme de la loi, il sera suspendu. Peut-on voir une plus odieuse, une plus abominable persécution de la presse ? Y a-t-il des termes assez forts, des expressions assez vives, pour rendre l'indignation qu'elle inspire ? Quoi ? Vous faites une loi de censure, j'y obéis ? Et vous refusez même de m'appliquer votre loi oppressive ? Vous me déniez la justice, vous me déniez l'esclavage pour m'étouffer. Quel est l'homme qui dirige un pareil système ? Si le conseil de surveillance est réellement quelque chose, ne doit-il pas faire chasser à l'instant un pareil homme ? Ainsi c'est l'esprit de vengeance contre les Blancs. c'est la fureur contre les blancs accusateurs des mutilations de la censure. C'est cette fureur qui amène ce dévergondage de despotisme. On veut tuer ceux que l'on a blessés, de peur de laisser des témoins de la violence, de peur d'être reconnus, d'être jugés et condamnés au tribunal de l'opinion. Et c'est là ce que l'on veut nous faire passer pour de la liberté, c'est là ce qu'on appelle une censure contre la licence. Les petites tyrannies subalternes prennent le caractère de la bassesse dans laquelle elles sont engendrées. Il y a pourtant une ressource contre une telle déloyauté, c'est de faire paraître le journal non censuré, après avoir fait constater légalement, autant que possible, le refus de la censure. Le journal sera suspendu, il y aura procès. Nous verrons si les tribunaux condamneront un journal pour avoir transgressé une loi à laquelle il s'était soumis et dont on lui a refusé le triste bénéfice. Car enfin ce journal s'est trouvé, par ce déni, dans la position de paraître non censuré ou de cesser d'exister. En principe de droit, on ne peut forcer ni un homme ni une chose à s'anéantir volontairement. Un article du Courrier anglais, journal ministériel, dévoué à M. Canning, m'arrive. Je m'empresse de faire connaître cet article, car désormais la France ignorera ce qu'on pense de nous en Europe. C'est encore un des bienfaits de la censure. Guillemets. Les journaux de Paris du dimanche et de lundi nous sont parvenus hier soir. Le Moniteur du 25 contient une ordonnance royale qui établit une rigide censure de la presse. Cet exercice de la prérogative royale nous paraît être le résultat du retrait de la loi sur la presse, présenté aux chambres dans la dernière session. Le but de cette mesure est d'enchaîner en France l'expression de l'opinion publique. La manière dont elle sera exercée dépendra de la discrétion et de l'humeur des personnes chargées de la surveiller. Nous ne pouvons pas découvrir le motif précis d'une telle ordonnance dans le moment actuel. Nous lisons avec attention les journaux de Paris et nous avouons que nous n'y trouvons pas ce langage séditieux et incendiaire qui pourrait demander une surveillance aussi sévère de la presse. D'ailleurs, il y a des preuves suffisantes que les tribunaux du pays ont le pouvoir d'en punir les excès. Un gouvernement doit être bien faible, ou le peuple qu'il régit bien porté à la désaffection, pour qu'on croie nécessaire d'établir une censure. Mais c'est une grande erreur de supposer que cette ressource soit aussi utile dans l'un ou l'autre cas. Un gouvernement n'acquiert aucune force en trahissant ses craintes, et un peuple mécontent ne redevient pas affectionné sous le poids de nouvelles entraves. Fin des guillemets, Courrier anglais du 27 juin. Je prie les lecteurs, entre les mains desquels cette brochure peut tomber, de la conserver, non pour son mérite, mais pour les faits qu'elle renferme. Elle leur servira de clé dans la lecture des journaux indépendants. Il se peut faire que ces journaux, incapables de lutter contre le ministère, secondés du zèle abject des valets du pouvoir, il se peut faire que ces journaux soient obligés de se soumettre à la nécessité. Ils se verront peut-être obligés, pour exister, de renoncer aux blancs, de s'annuler de toute façon. Car la censure pèse autant sur les lettres que sur la politique. Que les lecteurs des feuilles indépendantes se souviennent qu'ils ne voient plus rien des opinions réelles de ces feuilles. Si elles résistaient toutes à la fois, elles triompheraient sans doute. Mais il est difficile de faire entrer les esprits divers dans un même système. Les lecteurs ne doivent donc accuser que les oppresseurs de l'opinion publique. Silence d'un côté, mensonge de l'autre. Voilà maintenant l'état de la presse périodique. C'est en présence de cette double vérité qu'il faut maintenant lire les journaux.